Dans quelques secondes lumière, Radio Pleine Lune vous offre une émission sur la comète de Halley. Elle refait son grand comeback tous les 76 ans. Qui est-ce ? Halley, comète de son prénom. Ça n'arrive qu'une fois dans votre vie. Qu'est-ce que c'est ? Le passage de cette chère comète de Halley. Vous ne savez pas pourquoi on s'intéresse tant à cette comète. Vous n'imaginez pas comment elle puisse rapporter 500 millions de dollars à ceux qui ont décidé de l'exploiter. Bref, vous ignorez tout de celle dont on parle dans tous les salons. Alors, pour vous remettre sur orbite, écoutez la saga de Halley sur RPL, Radio Pleine Lune, 101.4 MHz. La comète de Halley. Parlons science d'abord. Qu'est-ce qu'une comète ? Le mot comète vient du grec cométès, qui veut dire astre chevelu. C'est joli, non ? C'est un astre, un corps céleste, présentant un noyau brillant, la tête, et une traînée gazeuse, chevelure et queue, qui décrit une orbite parabolique dans le système solaire. Les comètes sont observées périodiquement. À ne pas confondre avec un météore, ou une étoile filante, ou un astéroïde, qui sont aussi des corps célestes, mais qui traversent l'atmosphère terrestre et qui, en se consumant, laissent dans la nuit une traînée lumineuse. Les étoiles filantes durent le temps d'un vœu, le temps d'un soupir. Les comètes, elles, se promènent des mois durant dans notre ciel. Les scientifiques du monde entier attendent la comète au tournant. Mais pourquoi cet engouement pour ces chevelus de comète ? Pour leur arracher les secrets cosmiques de notre planète. La comète de Halley a réapparu un soir dans la constellation du Petit Chien, au-delà de l'orbite de Saturne. Ce n'était qu'une fragile lueur décelée par l'œil ultrasensible du télescope géant du Mont Palomar en Californie. Mais quel événement ! On l'avait perdu de vue depuis 1910. Cette nuit-là, le 16 octobre 1982, les astrophysiciens du monde entier ont jubilé. Ils craignaient que la comète de Halley n'eût disparu corps et âme dans l'espace sidéral. Elle a mis 3 ans à s'approcher de la Terre. Et pendant ces 3 années, toute la planète science a préparé fébrilement la seconde rencontre du siècle avec cet astre énigmatique. Pour lui arracher ses ultimes secrets, les hommes ont braqué sur elle leurs meilleurs télescopes et envoyé une impressionnante armada de sondes. C'est la plus passionnante traque de l'histoire de l'astronomie. Pourquoi le monde scientifique met-il une telle ardeur à scruter cet émissaire glacé qui s'embrase à l'approche de notre Soleil ? Les astrophysiciens voient dans les comètes les mémoires gelées de notre univers. Contemporaines de la naissance du système solaire, elles ont gardé dans leurs entrailles les matériaux originels. Observer une comète, c'est plonger dans le passé du monde, la disséquer, c'est fouiller l'antiquité du macrocosme. Cette fois-ci, les astrophysiciens se font archéologues. Leur quête céleste nous concerne tous. C'est la recherche des racines cosmiques de la Terre. Aujourd'hui encore, on sait bien peu de choses des comètes, ces riens visibles, comme les appelle Michel Festou, l'un des meilleurs spécialistes français. Ces véritables vagabonds de l'espace fascinent les astronomes depuis la nuit des temps. Loin du Soleil, croit-on, une comète n'est qu'une boule de neige sale, d'un diamètre ridiculement petit, à l'échelle cosmique, quelques kilomètres à peine. Elle voyage sur une orbite elliptique à l'intérieur du système solaire. À intervalles réguliers, 76 ans pour la comète de Halley, ces fantômes de glace viennent frôler notre Soleil et hanter la banlieue de la Terre. C'est alors qu'elles se métamorphosent en des astres superbes. Au fur et à mesure de leur course folle vers le Soleil, elles se mettent à chatoyer, à étinceler, à resplendir. Les noyaux de ces comètes se seraient formés en même temps que les planètes, puis conservés au frais à moins 200 degrés dans le système solaire externe. De temps en temps, une perturbation due au passage d'une étoile précipite ce noyau vers l'intérieur du système solaire. Lorsque ce noyau composé de grains de matière solide emprisonnés de glace passe près du Soleil, il fond et petit à petit se développe la fameuse queue, une chevelure de la comète. Cette queue est toujours dirigée, sous l'action des vents solaires, dans une direction opposée à celui du Soleil. Les noyaux cométaires, ces balles de neige et de roche, se subliment. La matière qui les compose passe de l'état solide à l'état gazeux. La comète revêt alors son habit de lumière. Surgit d'abord un halo flamboyant, une chevelure qui entoure le noyau. Puis l'astre s'orne de 2 queues. La plus petite, incurvée, combine les poussières échappées du noyau. La plus belle, qui peut atteindre plusieurs millions de kilomètres de longueur, est un essaim de particules ionisées. Ce panache ne suit pas la comète, il se déplace en fonction du vent solaire, et quand Halley, à la fin de février, émergera de derrière le soleil, son écharpe de lumière lui ouvrira la route. Cet embrasement magnifique épuise peu à peu les faibles réserves de matière des noyaux. Au terme de milliers de feux d'artifice sidéraux, les comètes meurent. Certaines se cassent en plusieurs morceaux qui vont se perdre au loin, très loin dans le système solaire. D'autres se suicident en se jetant dans le soleil. À la fin du mois de septembre dernier, on estimait que Halley dispersait chaque jour dans l'espace l'équivalent de 100 000 tonnes d'eau glacée. Chaque jour. Mais pas de panique, la reine des comètes possède, selon les calculs des experts, assez de réserves pour revenir faire son show au voisinage de la Terre pendant tout le prochain millénaire et même au-delà. Et Halley nous a déjà légué assez de débris pour former deux essaims d'étoiles filantes, les aquarides, observables en été, et les orionides en octobre. Personne n'a jamais vu ce noyau cométaire. C'est de leur seul cerveau et de l'observation lointaine de ces astres chevelus que les scientifiques ont fait jaillir les hypothèses qu'ils vont enfin, grâce à Halley, confronter avec la réalité. Quel suspense ! Plus encore que l'apparence de la comète qui les intrigue et les excite, c'est sa composition chimique qui les passionne. Leur scénario favori raconte que les comètes se sont formées il y a 4,6 milliards d'années, en même temps que le système solaire, lors de la contraction d'un immense nuage interstellaire de gaz et de poussière. Dans une ronde folle, la matière s'est alors peu à peu agglomérée pour donner naissance aux planètes. Les comètes, elles, plus froides et plus légères, ont été projetées aux confins de ce manège infernal. Par milliards, elles ont trouvé refuge dans un anneau glacé, le nuage d'Oort, qui ceinture le système solaire. Les autres étoiles possèdent sans doute aussi un semblable nuage. Peut-être y a-t-il parfois, entre les étoiles, des échanges de comètes. Quand l'un de ces fossiles, éjecté de son havre de glace, vient tel un vaisseau fantôme se réchauffer à notre soleil, c'est une véritable machine à remonter le temps qui s'avance vers nous. Dès sa réapparition, les scientifiques ont mis Halley sous haute surveillance. Leur impatience croît lorsque le 20 décembre 1984, le télescope infrarouge de l'île d'Hawaï détecte les premiers frémissements, les premiers signes d'activité du noyau. Depuis, il ne la quitte pas des yeux. Les meilleurs télescopes du monde sondent la revenante. À la surprise générale, en février dernier, on a détecté un phénomène encore inexpliqué. La comète clignote. constatons qu'elle ne brille pas d'un éclat constant. Il est donc de bon ton, et non de mauvais goût, de faire clignoter dans sa crèche de Noël l'étoile qui montra le chemin au roi mage. La comète qui clignote, on voulait vous passer un chant de Noël, mais c'est un petit peu raté, alors on arrête le massacre et on continue. Au fil des mois, l'activité des scientifiques voyeurs devient quasi frénétique. Au royaume des astronomes, on a préparé depuis longtemps un comité d'accueil grandiose pour la belle de l'espace. C'est l'International Halley Watch, un réseau planétaire d'observation à partir de la Terre créé par la NASA qui réunit près d'un millier de savants. Les cracks de la branche. Le chef d'orchestre, Ray Newburn, à Pasadena, arbore fièrement son badge et sa cravate Halley. Ses spécialistes, secondés par des centaines d'amateurs, dissèquent la voyageuse. Ils recalculent minutieusement son orbite. Ils analysent les plasmas, les poussières, observent la chevelure, les queues, le halo. Déshabillant électroniquement la comète, ils l'auscultent avec tous les raffinements et les nouveautés de leur art. Lorsqu'ils se réuniront en février prochain à Paris, ces experts pourront déjà commencer à évaluer les théories cométaires, à les juger au vu des données toutes neuves et surtout à peaufiner les ultimes préparatifs de la rencontre des sondes et de Halley. À ce moment-là, la comète sera invisible de la Terre, cachée derrière le Soleil jusqu'à la fin du mois de février. Les satellites participent eux aussi à ces moissons du ciel. L'apothéose de cette incroyable rencontre de la Terre et de la comète de Halley se situera entre le 6 et le 14 mars, quand les 5 sondes croiseront la route de la vagabonde de l'espace. Elles ouvriront une voie royale à l'astronomie cométaire. Ayant déjà quitté la Terre, ces explorateurs de métal voguent dans l'azur en préparant le jour J. Deux de ces sondes, Vega 1 et Vega 2, battent pavillon soviétique. Mais elles emportent à leur bord plusieurs expériences françaises. Lancées en décembre 84, elles sont déjà allées, en juin dernier, frôler les rivages de Vénus. Elles y ont largué deux ballons-sondes avant de contourner la planète et de repartir sans coup férir en direction de la comète. Le 6 mars 1986, Vega 1 se trouvera à 10 000 km du noyau. Ces révélations permettront d'affiner la trajectoire de Vega 2, attendue le 9 mars à une distance comprise entre 3 000 et 10 000 km du cœur cométaire. Et les Américains ? Eh bien, dans cette superproduction spatiale, ils restent en coulisses, au sol, sans acteurs de premier plan. Le Congrès a refusé, en 1980, de financer l'envoi d'une sonde vers Halley. Pour se consoler, ils ont réussi en solo un bel exploit. Ils ont décidé de faire bande à part, puisque le 11 septembre dernier, leur satellite ICE a rencontré la comète Giacobini-Zinner. Mais ICE, précédemment utilisé dans l'étude des vents solaires et reconverti en explorateur cométaire, n'a pas pu prendre de photos. Et les résultats de sa mission n'ont toujours pas été publiés. les États-Unis vont tout de même consacrer deux voyages de leur navette à l'observation de Halley. Les Japonais, eux, ont rejoint le club très fermé des visiteurs de la comète. Mais Sagigake et Suzette, leurs deux sondes, ne risquent pas de se brûler les ailes. La première passera à plusieurs millions de kilomètres et la seconde à quelques 200 000 kilomètres pour photographier de loin le fantôme de lumière. La mission la plus extraordinaire, la plus risquée, revient à la sonde européenne Giotto. Dans la nuit du 13 au 14 mars, elle se glissera à 70 km/s dans l'intimité de la comète, à moins de 500 km du noyau. Du jamais fait, du jamais vu. Giotto, en fait, c'est un cylindre de métal de 3 mètres de hauteur qui part à l'assaut de la plus puissante des comètes connues, un kamikaze qui rencontrera l'enfer. On ignore tout de la zone interdite qui entoure le noyau. Probablement un univers de violence où poussière et caillasse volent comme autant de projectiles à la rencontre du robot venu de la Terre. Dans cette bataille inégale, la seule défense de Giotto est un double bouclier. Peu de choses quand on sait qu'une particule de 1 mm de diamètre à 250 000 km/h possède l'énergie cinétique d'une voiture roulant à 80 km/h. Mais si Giotto survit à ce monde hostile, ce sera l'éblouissement. Et son antenne pointée vers la Terre transmettra en continu des scoops cosmiques sur la nature profonde de la boule de neige sale. On connaîtrait enfin la composition chimique du noyau, l'identité des molécules gelées qui sont autant de vestiges de la nébuleuse primitive. S'il échoue, Giotto, eh bien, on devra patienter 76 ans pour une nouvelle connexion cosmique avec ce rêve de lumière.
Viens, je t'emporte dans mon nuage, dans mes 30 mètres carrés d'image, dans mes murs de papier peint, de soie sauvage et de coton. Made in India pour le folklore, douceur des yeux et puis du corps, pelure d'orange dans le cendrier, doping nature, vitamine C. Viens, je t'emmène dans mon voyage vers l'an 2000, si pas de barrage, si pas de bombe, si pas de mots, dans nos chocolats pas bien chauds. Viens, je t'entraîne dans mon vivant, dans ces ringots si tu dis star, j'arrêterai la locomotive, en monocycle je prendrai. Viens, je t'emporte dans mon airplay, Paris-Kaboul chaque fin de semaine, Paris-Dakar, Paris-Bangkok, pension complète, c'est pas du toc. Viens, je t'aimante dans mes délires, fantasmes et autres, c'est la pire, grimpe dans mon sidecar. Saute dans mon autobus, on se fera des montagnes et plus, on ira, ce sera pas du luxe, ensemble jusqu'au terminus.
Y a-t-il des risques de collision avec la Terre? C'est ce qu'on pourrait se demander avec cette sacrée comète. Eh bien, la fréquence statistique de collision se situe autour d'une probabilité de collision en 30 à 60 millions d'années. Donc il y en a une toutes les 60 millions d'années, ce qui nous laisse quand même de la marge. L'agent responsable de la destruction de la planète Terre aura donc plus de risques d'être déguisé en champignon atomique qu'en comète.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombe H, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parle, la tonton qui soupire et qui s'écrit comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. « Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Content devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tout cet tordu, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna, et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement, chef du gouvernement.
Comment voir cette fameuse comète ? En 1910, elle a passé entre le Soleil et la Terre. Cette fois, elle se cachera un moment derrière le Soleil. Pour le simple Pékin, il a été plus facile de l'observer en 1910 que pour nous en 1986. En décembre de cette année, la comète deviendra suffisamment brillante pour être vue à l'œil nu, sauf des villes à cause de la lumière électrique. Mais il faut être très calé en astronomie. L'observation est quand même plus facile avec des jumelles. Alors, il faut se placer dos au nord et regarder le sud. En ce moment, la comète est visible dès 17h et se trouve à une hauteur de 35 degrés au-dessus de l'horizon. À 20h, elle est à 50 degrés de hauteur environ. Un exemple, le 17 décembre, nuit sans lune, à partir de 19h, on devrait la voir avec des jumelles au-dessus de l'horizon ouest, dans la queue de la constellation du Poisson, au-dessous du grand carré de Pégase. La comète s'éclipsera à partir de mi-janvier. En février 86, elle sera invisible de la Terre, car c'est le moment où elle se rapprochera le plus du Soleil qui la cachera. En avril 86, elle sera très proche de la Terre et très lumineuse, mais on la verra beaucoup mieux de l'hémisphère sud. À Genève, la comète réapparaîtra autour du 15 mars, plus visible, mais très bas sur l'horizon, donc il faudra grimper sur le Salève pour la voir. À quoi ça sert de voir la comète de Halley ? À rien, sinon à philosopher et rêver.
Le vent a fait s'approcher les nuages, il fait gris au-dessus des plages. Et la mer a l'air triste aussi. Le ciel n'est plus qu'un long tissu de brume. Il va faire une nuit sans lune. Et demain je n'aurai pas dormi. Peut-être je vais rencontrer une dame quand j'irai accrocher mon âme sur les arêtes des rochers. Mais le vent souffle si fort sur ces pierres, c'est plus la peine que j'espère. L'amour ne peut pas s'y poser. Mais je rêve, je lance des mots vers le jour qui s'achève. Je voulais qu'il reste, il n'a pas entendu. Plus loin sur les rocs que la mer assaille, cheveux et jupons en bataille, combien de femmes ont attendu? Combien ont crevé leur cœur sur les vagues pour celui qui avait l'autre bague? Qui n'est jamais revenu. Mais je rêve, je lance des mots vers le jour qui s'achève. Je voulais qu'il reste, il n'a pas entendu. La mer est plus forte que mon courage.
Maintenant, une petite histoire de Madame Halley. De tout temps, on a attribué aux comètes tous les cataclysmes imaginables. Chaque soir, nos ancêtres trouvaient les mêmes étoiles bien rangées à leur place. Le ciel, pour eux, tournait comme un mécanisme bien réglé. Tout était pour le mieux. Les dieux étaient silencieux. Et puis soudain, une comète arrivait, sans crier gare. La comète restait un moment accrochée à la voûte céleste, elle en perturbait la belle ordonnance. Dans ces temps lointains, on était plutôt conformiste, comme les dieux. Ces marginales de la voûte céleste dérangeaient. Comment ne pas y voir un message de la colère divine ? Et comme il y avait bien des chances statistiquement que l'apparition d'une comète coïncide avec un événement malheureux, on a tôt fait de lui attribuer tous les maux. Toutes les annales depuis les temps les plus reculés regorgent de ces méfaits. Les inondations, la sécheresse, les orages, le vent, le froid, la chaleur, c'est la comète. Les épidémies, la peste, la grippe, la mort des personnages illustres, c'est la comète. Les incendies, les tremblements de terre, les raz-de-marée, les ouragans, c'est la comète. N'en jetez plus, la comète est pleine. Les scientifiques, eux, s'occupent des comètes depuis la plus haute antiquité. Une tablette babylonienne décrit le passage d'une comète. Les Grecs, plus éclairés, sont désemparés par ces apparitions soudaines. Ils se querellent. Les comètes sont-elles des planètes ? Mais alors pourquoi une queue ? À moins qu'elles ne soient de simples illusions de phénomènes optiques dus à la réflexion des rayons lumineux. Ou encore, comme l'affirme Démocrite, deux planètes très serrées dans le ciel que l'on prend pour un être unique. C'est Aristote, au IVe siècle avant Jésus-Christ, qui emporte la conviction. Les comètes, ce sont des exhalaisons de la Terre, des gaz secs et chauds qui s'enflamment, logiquement en montant vers le feu. Leur apparition annonce le vent et la sécheresse. Et ajoutera-t-on les tremblements de terre et autres calamités. On a donc raison d'avoir peur. Maintenant, les scientifiques légitiment la superstition. Au début de notre ère, Sénèque suggère que les comètes sont des corps en mouvement, qu'elles reviennent à d'immenses intervalles, mais qu'une vie ne suffit pas pour les étudier. Étonnante clairvoyance. Là, la décadence le réduira au silence, et on comptera la belle histoire d'Aristote jusqu'à la Renaissance, pendant 2000 ans. D'ailleurs, l'étoile qui aurait guidé les rois mages serait une comète. Celle-là, c'était une sympa. Pour l'Église du Moyen-Âge, les astres maudits ne peuvent être situés au-delà de la Lune. Là-bas, c'est le domaine de Dieu. Alors, de l'assassinat de Jules César à la défaite des Hastings, les comètes multiplient leurs crimes. Sur la tapisserie de Bayeux, une main peint ce qui deviendra la comète de Halley. En 1301, Giotto consacre une autre visiteuse, étoile des rois mages. 1543, enfin, c'est la Révolution. Copernic renverse la cosmologie d'Aristote, vieille de 2000 ans. La Terre n'est pas le centre de l'univers, mais le monde mettra quelque temps avant de le reconnaître. En 1577, l'astronome danois Tycho Brahe note les différentes positions d'une comète. Il a la bonne idée de les comparer avec celles qui ont été observées par l'un de ses collègues de Prague. Si la comète est aussi rapprochée que de la Lune, on devrait, se dit-il, observer une différence entre les deux relevés. Eh bien non, à Copenhague et à Prague, ce sont les mêmes coordonnées. Conclusion, la comète est bien plus éloignée que la Lune et n'est pas un phénomène terrestre. Il faudra là encore des années pour qu'on en accepte l'idée. En 1682, voilà de nouveau une superbe comète. « C'est la plus belle queue qu'il est possible de voir », écrit Madame de Sévigné dans l'une de ses fameuses lettres. Mais Sir Edmund Halley, qui collabore avec Newton au sujet de la gravitation universelle, est intrigué. Son orbite est tout à fait identique à celle des comètes observées en 1531 et en 1601. Et même, découvre-t-il en fouillant les archives, à celles de 1456, 1378 et 1301. Écart entre toutes ces dates, en moyenne 76 ans. Halley l'a compris, c'est la même. L'intuition de Sénèque est confirmée, la gravitation de Newton aussi. Je peux prédire avec quelque certitude le retour de la comète en 1758, écrit Sir Edmund Halley. Et il ajoute prudent, la postérité ne refusera certainement pas de reconnaître que ce fait fut découvert par un Anglais.